Vivre Montréal.
Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes.
C'est IBL 101.5 au cœur de Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air arrive sous de congestion depuis Turcot parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
Ah, cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
C'est IBL. 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 27 mars et ici Charline Caro, votre animatrice pour bien débuter la journée. Et aujourd'hui, on parle d'une initiative contre le sexisme en ligne et on reçoit une nouvelle chroniqueuse avec Amélie Gostefer. Et en entrevue, ce sera le chauffeur Tété de passage à Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou tranquillement en train de travailler, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal souhaite prolonger le boulevard de l'Assomption en passant à travers le boisé Steinberg, ce qui réduirait une partie de ce milieu naturel. La municipalité s'engagerait en contrepartie à planter 1 millier d'arbres dans le secteur pour verdir d'autres espaces. Malgré tout, des habitants de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve s'opposent à ce projet et réclament la préservation du boisé Steinberg. Et ensuite, une suggestion culturelle avec l'ensemble Obiora qui se produit ce vendredi. Constitué de personnes issues de la diversité culturelle, l'orchestre vise à faire découvrir les œuvres de compositeurs afro-descendants. Au programme de ce concert, la symphonie numéro 1 du Guadeloupéen Joseph Bologne ou encore le nonet en fa mineur de l'afro-britannique Samuel Coleridge Taylor. C'est à retrouver vendredi à 19h30 à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord et c'est gratuit. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Maude Pontel pour parler d'une initiative pour lutter contre le sexisme en ligne. Je reçois ce matin Maude Pontel, coordinatrice générale de l'Alliance MH2, un organisme membre du réseau d'hébergement Femmes Canada. Bonjour Maude, bon matin.
Oui, bonjour, bon matin.
Vous représentez aujourd'hui le réseau d'hébergement Femmes Canada, dont votre organisme fait partie. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de sa mission?
Oui, alors Hébergement Femmes Canada, c'est un organisme pancanadien, national et territorial qui regroupe 16 organisations provinciales et territoriales, donc des regroupements de maisons d'hébergement. Et au total, Hébergement Femmes Canada, par l'entremise de ses membres, représente 600 maisons d'aide et d'hébergement à travers le pays pour les femmes et les enfants qui fuient la violence.
Très bien. Alors, Hébergement Femmes Canada, cet organisme a lancé au début du mois une initiative pour combattre le sexisme en ligne. Pourquoi avoir mis en place ce projet?
Écoutez, le sexisme en ligne fait partie des formes de violence basées sur le genre. On voit que c'est des propos misogynes gratuits et en fait de commencer par les médias, c'est aussi de faire taire ces commentaires-là et surtout d'arrêter la banalisation parce que ça commence avec un commentaire en ligne puis ça peut être une escalade aussi. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller vers les médias sociaux et de faire taire le sexisme en ligne et surtout de mettre en lumière la banalisation du sexisme et de la misogynie en ligne quand personne ne dit rien ou que personne ne se manifeste.
Mmh. C'est Hébergement Femmes Canada qui lance cette initiative. Quel est le lien avec cette mission? Parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément tout de suite le lien entre hébergement et sexisme en ligne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Pour nous, c'est très important, là, quand on parle de la violence basée sur le genre, pour nous, c'est très important là de regarder ça dans une lunette macro. C'est sûr que ça peut paraître être une petite initiative, mais on se dit que en commençant par là, ça va nous permettre aussi d'aller chercher des alliés masculins notamment. On sait que la majorité des personnes qui agressent les femmes sont des hommes, mais on sait aussi que les hommes peuvent être des alliés, peuvent contribuer à la solution et donc peuvent aussi se tenir debout face à des commentaires sexistes. Mmh. Donc on s'est dit, on veut trouver des outils qui peut faciliter la prise de parole des hommes, parce qu'effectivement, dans l'espace public, dans les relations interpersonnelles, ça peut créer des malaises, par exemple, quand quelqu'un fait une blague sexiste, qu'on n'apprécie pas nécessairement, mais qu'on ne sait pas vraiment comment naviguer à travers ça. Ben, on s'est dit que le cricket, qui est quand même un symbole fort, après une blague de mauvais goût, un silence là où on entend des criquets, on s'est dit que ça pouvait vraiment être un outil intéressant, pertinent, puis facile à utiliser.
Oui, on va revenir sur cet outil que vous avez mis en œuvre, l'émoji du criquet. Avant ça, si vous luttez contre le sexisme en ligne, c'est que c'est un problème aujourd'hui. Actuellement, quel est le constat que vous pouvez dresser de ce phénomène? Est-ce qu'il est important?
Ben écoutez, oui, on le voit là quand même très régulièrement. Notamment si on voit là, par exemple, des figures publiques, il peut y avoir des commentaires qui vont tout de suite aller vers leur image, leur apparence, leur corps, des commentaires à caractère sexuel, etc. Et ce qu'on a vu là, c'est que c'est en février 2024, Hébergement Femmes Canada a demandé à Léger Marketing de faire une étude, et on s'est rendu compte que 78% des Canadiens n'étaient pas du tout à l'aise par rapport à ces commentaires, mais aussi avec n'étaient pas du tout à l'aise par rapport à ces commentaires-là.
Très bien. C'est sur les médias sociaux qu'on les observe, ces commentaires. Est-ce qu'il y a des médias sociaux plus visés que d'autres?
Mais je pense qu'à partir du moment où il y a des personnes qui se présentent et donnent une plateforme de commentaires, de discussions, c'est sûr que c'est là que les personnes mal intentionnées peuvent agir. On pense notamment à Facebook, à Instagram, TikTok, LinkedIn, etc., etc. Mais il faut aussi voir que avec cette campagne-là qui part des médias sociaux, ça peut aller aussi beaucoup plus loin. Par exemple, quand un ami envoie un message texte, je sais pas moi, avec les photos de sa copine, sans le consentement de sa copine, son ami pourrait très bien lui dire, écoute, je suis pas à l'aise. J'apprécie pas ce que tu viens de faire. Et s'il n'est pas capable de dénoncer la situation, peut-être juste de mettre un criquet en disant, écoute, ça se fait pas là, c'est vraiment pas approprié. Et donc c'est aussi bon d'encourager les hommes à se positionner par rapport à ça, je pense, puis commencer par les médias sociaux, c'est une porte d'entrée, mais après c'est aussi petit à petit que ça fasse son chemin, puis que les gars soient capables de se positionner davantage dans l'espace public en disant, mais écoute, ça n'a absolument aucun bon sens, c'est inadéquat, c'est irrespectueux, et donc de vraiment prendre, je dirais, une position ferme par rapport à ces commentaires-là.
Vous parlez de mobiliser les hommes face à ces commentaires sexistes, pourquoi les prenez-vous à part dans ce mouvement-là? Pourquoi leur action est-elle importante également?
Mais je vous dirais, c'est pas nécessairement de les prendre à part, c'est de les inclure dans la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence basée sur le genre. On va voir beaucoup de campagnes et d'actions qui ciblent majoritairement les femmes ou les personnes qui s'identifient comme femmes, mais je pense que les hommes, les gars, ont aussi une part importante à jouer et qu'il faut leur donner des outils qui puissent leur permettre justement d'être plus actifs dans la lutte contre la violence faite aux femmes et basée sur le genre.
On parle pour l'instant de messages virtuels. Quelles sont les conséquences sur le réel? Quel impact a ce sexisme en ligne sur le sexisme réel?
Ben écoutez, l'impact du sexisme en ligne, il est très concret. Il y a des personnes qui sont... il y a des campagnes de salissage, il y a des personnes qui sont atteintes au plus profond d'elles-mêmes. Donc, quand on voit là l'impact que ça a, juste le fait que ce soit en virtuel, l'impact que ça a sur les personnes dans leur vie à elles, il est énorme. Mais quand on transpose ce sexisme-là, cette banalisation-là, sur les réseaux sociaux, on le voit avec quand on parle de la culture du viol, quand on parle de tous ces phénomènes-là, de la masculinité toxique, etc., etc., on voit que la banalisation en ligne, elle contribue aussi à ce phénomène-là, et c'est vraiment important d'être en mesure de pouvoir, y mettre un terme, même si c'est un grand combat, mais il faut qu'on ait des alliés à l'intérieur de ça, puis il faut que les gars, les hommes, se sentent interpellés par ça. Puis, si parfois c'est difficile de trouver les mots pour dire, écoute, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire ou ce que tu viens d'écrire, ben au moins le cricket, c'est un début, c'est un premier pas.
Mmh. On pourrait penser que ces messages sexistes en ligne, bien qu'ils sont dommageables, ne sont pas la priorité en termes de lutte pour la condition des femmes. Pourquoi Hébergement Canada s'attaque à ce bas de la pyramide? Justement, vous avez un concept de la pyramide qui permet d'expliquer que tous les problèmes sont importants. Est-ce que vous pourriez nous en parler?
Ben oui, effectivement, quand on regarde là le fait de vouloir faire une campagne, peut-être un petit peu, à moins grande échelle, c'est parce que, comme on dit, petit train va loin. Et donc, de commencer avec une campagne, je dirais, de petite ampleur, on veut voir aussi les effets à mesure parce qu'on sait que les choses peuvent évoluer dans le temps et peuvent se propager rapidement aussi.
Alors, on en vient au vif du sujet parce que pour lutter contre ce phénomène, vous avez lancé l'initiative Criquet. Quel est le concept de ce Criquet-là?
Alors, quand on regarde à la télévision ou même bon dans des shows, etc., quand il va y avoir une blague de mauvais goût, souvent ça va être suivi d'un silence et on va entendre le bruit des criquets. Et donc, on a décidé d'utiliser ce symbole parce qu'on trouve que c'est un symbole fort pour manifester un malaise. Mmh. Et donc, on s'est dit, en utilisant le cricket, l'emoji du cricket, qui est à bout de doigt de tout le monde, ça va permettre vraiment d'être très rapide en matière de réponse et de réaction.
Et est-ce que, au final, le cricket n'est pas l'absence de réponse, parce qu'il n'y a rien de verbal? Est-ce que l'impact est quand même important? Est-ce que le silence est une réponse, au final?
Oui, le silence est lourd de sens. Mm-hmm. Le cricket symbolise un silence qui est lourd de sens et qui effectivement va démontrer un malaise, vraiment une désapprobation de ce que les gens auraient pu dire, et c'est la manière de commenter effectivement en ne commentant pas, mais en plutôt en mettant un emoji qui symbolise le malaise, ben le message, il est très clair.
Mmh. Et aussi, vous parliez du fait que dénoncer le sexisme en ligne ou dans la vraie vie peut être délicat. Est-ce que cet emoji cricket, c'est aussi une manière de démocratiser la réponse, la confrontation de ces messages?
Absolument. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Je pense que les gens maintenant il y a un langage par emoji qui s'est développé depuis quand même un certain temps. Si les gens comprennent que l'emoji du cricket c'est vraiment l'emoji du malaise, du silence comme on dit malaisant, puis je mets des guillemets, ça va se démocratiser absolument.
Mmh. Alors est-ce que vous pensez que cet emoji peut avoir un impact réel sur les comportements? Comment vous voyez la suite?
Ben écoutez, c'est sûr que nous, ça, c'est vraiment, on le voit sur du long terme. C'est vraiment une action qui débute en ligne, mais bon, on a quand même on aspire à ce que l'impact soit positif et que cette initiative se concrétise vraiment dans le temps et dans la sphère publique. Donc là, pour nous, on veut vraiment voir une utilisation accrue de l'emoji du cricket pour justement dénoncer les commentaires sexistes et que ça se fasse vraiment dans différentes sphères, dans les discussions publiques, etc., sur ce sujet-là.
Mmh. Et jusqu'à maintenant, quel est le succès rencontré par l'emoji que vous avez lancé? Est-ce que les gens l'utilisent?
Oui, les gens l'utilisent dans les différents médias, sur différents médias, sur différentes pages. Il y a des influenceurs aussi qui ont été ciblés par la campagne. Donc oui, on le voit de plus en plus là, qui est utilisé sur les médias, puis par de plus en plus de personnes aussi.
Et est-ce que vous pensez à une alternative du cricket pour dans la vraie vie?
Je vous dirais que au niveau des... C'est une bonne question. Je pense que, en fait, plutôt qu'une alternative au cricket, ça commence en ligne, puis c'est aussi pour se donner des armes, entre guillemets, pour après, pour être capable de se poser une réelle réflexion. J'ai éprouvé un malaise en lisant tel commentaire, fait peut-être par une personne que je connais, puis j'ai réagi avec un criquet parce que c'était ça que j'avais comme outil à disposition. Mm-hmm. La prochaine fois que je vais voir cette personne, est-ce que c'est lui qui va m'en parler ou est-ce que c'est moi qui vais lui en parler? Et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là, puis que cette réflexion-là chemine de plus en plus pour que les gens soient capables d'aborder le sujet directement et concrètement.
Très bien. Merci beaucoup, Maud, pour toutes ces explications. On retient donc l'émoji criquet et puis aussi toutes les informations forcément sur criquet au pluriel.ca. Merci beaucoup et puis bonne continuation.
Merci à vous aussi. Au revoir.
On continue sur CIBL avec la chronique d'Amélie Gerstoffer.
Le soleil est loin sur la mer. Si le jour s'éteint, quelle affaire. Chérie, ton verre est plein. Le soleil est loin derrière. Est-ce que c'est la peur dans tes yeux? Un coup dans le cœur, un nouveau feu. Est-ce que c'est notre heure qui sonne dans le matin bleu? Mon amour, c'est rien de le dire. Ça dure le temps d'un soupir, le temps que la nuit s'efface une seconde. Mon amour, c'est rien de le dire. Je sais, le vide nous attire, mais avant que la vie ne passe une seconde, tu dois me répondre. J'ai pas vu la pluie nous surprendre, j'ai pas vu le gris sur la lande. Mon âme est ici, mon âme est prête à se vendre. Mon amour, c'est rien de le dire. Ça dure le temps d'un soupir, le temps que la nuit s'efface une seconde. Mon amour, c'est rien de le dire. Je sais, le vide nous attire, mais avant que la vie ne passe une seconde, tu dois me répondre. J'ai pas vu la pluie, pas vu le gris. Mon âme est ici, mon âme à qui veut la prendre. Mon amour, c'est rien de le dire. Ça dure le temps d'un soupir, le temps que la nuit s'efface une seconde. Mon amour, c'est rien de le dire. Je sais, le vide nous attire, mais avant que la vie ne passe une seconde, tu dois me répondre. Tu dois me répondre.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 $ en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a
les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
Et oui, la vie de famille comprend son lot de défis. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familiale. Je vous invite à écouter mon émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs à 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Chaque semaine, j'aurai l'occasion de vous partager des conseils et des anecdotes qui, je l'espère, vous donneront un second souffle pour vous aider à faire face aux défis que vous rencontrez au quotidien. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis de retour à la barre de l'émission Francophile sur les ondes de CIBL tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique francophone, un pied dans le son du moment et l'autre, un peu plus nostalgique, dans les racines de la scène alternative. J'ai très hâte de vous retrouver et de vous accompagner en musique. Francophile, c'est le mercredi de 10h à midi.
On est de retour sur CIBL et notez qu'avant la promotion, on écoutait Benjamin Dantès avec Rien de le dire. Et je reçois ce matin notre nouvelle chroniqueuse Amélie Egerstorfer qui vient nous raconter des histoires en tout genre. Bonjour Amélie.
Bonjour Chaline, comment ça va?
Ça va très bien. Et toi, comment ça va pour ta première chronique? Ça se passe bien? Pas trop stressée?
Pour l'instant, ça se passe très bien. Et j'ai vraiment hâte de te montrer ce que j'ai apporté pour toi.
Justement, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles d'argent et plus précisément des billets de banque canadiens. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces billets de banque?
So, le dollar canadien, il est vraiment super spécial et différent d'autres monnaies comme le dollar américain ou l'euro. Et je t'ai apporté un petit cadeau, un billet de 10 dollars canadiens.
Très bien, on le voit. Je le fais écouter à la radio.
Veux-tu bien le regarder et décrire ce qui te saute aux yeux?
J'adore déjà être interviewée comme ça. Je vois une dame, Viola Damon, c'est écrit. C'est un billet de 10, donc violet. Puis derrière, de l'autre côté, il y a un monument, le Musée canadien pour les droits de la personne.
Et tu constates quelle couleur?
Je vois du violet, du vert et un peu de doré.
Ce que tu peux aussi noter, c'est la texture.
Oui. Un peu plastifié.
Exactement. Ils sont faits de plastique. C'est une sorte de polymère. Est-ce que tu connais d'autres matériaux de billets, si tu penses à US dollar ou à l'euro?
C'est du papier un peu solidifié, j'imagine.
Exactement. Ouais. Ça peut être, par exemple, le coton ou une sorte de papier. Mais l'avantage des billets de banque canadiens, du polymère, c'est que ça a une durabilité augmentée. Donc, si tu vois, on ne peut pas le déchirer. Tu peux essayer, ça ne déchire pas.
En effet, ça ne déchire pas.
Et en outre, de nouvelles fonctions de sécurité sont possibles avec le dollar canadien, qui ne sont pas réalisables avec les billets en papier. Si tu regardes bien le billet, tu peux le garder. que peux-tu constater en niveau de sécurité?
De sécurité, il y a des petits points, un peu comme du braille sur le haut. Il y a des sortes d'hologrammes, pardonne-moi si je n'ai pas les bons termes.
Exact.
Puis des numéros.
Exact. Par exemple, ici, j'ai un billet de 20. On peut constater une feuille de marbre qui a un peu l'air trois dimensions.
Oui.
On peut aussi voir que la texture, elle est très lisse. Donc, le dollar, il est fait par une seule pièce. Donc,
d'accord.
Il n'est pas collé ensemble. Et il y a certaines parties qui sont transparentes et qui brillent.
En effet.
Il y a aussi des motifs différemment. Et si tu veux bien toucher le mot « Canada », tu peux sentir un petit relief.
En effet. Ouais, ouais, c'est
exact.
Vrai.
Et aussi sur le portrait.
Oui.
Et sur le gros chiffre en bas, c'est un petit relief. C'est pas lisse.
Ah oui, intéressant.
Et tu as déjà parlé du braille sur le numéro. En fait, ce n'est pas un numéro ou une lettre de braille, mais les valeurs numériques, donc 5 dollars, 10 dollars, etc., sont affichées d'une manière tactile. Et par exemple, les 5 dollars, ils ont un seul symbole de 6 points.
D'accord, donc c'est pour les personnes malvoyantes?
Exactement.
D'accord.
Les 10 dollars, qu'est-ce que tu peux sentir avec tes mains?
Sur le braille, c'est deux fois 6 points.
Exactement, deux symboles de 6 points. Pour les 20 dollars?
Les 20 dollars, où est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a du braille? Il y a pas de braille.
Exact. Si, si, non.
Ah.
Là.
Ah oui, il y a trois fois six.
Okay. Trois symboles de 6 points. Pour les $50, c'est 4 symboles de 6 points. Et pour les $100, ce sont deux symboles séparés par une surface lisse plus large que sur les billets de 10.
Très bien.
Si tu veux bien comparer tous les billets que j'ai là, qu'est-ce que tu peux constater? Qu'est-ce qui est différent entre les $10 et tout le reste que tu vois ici?
Eh bien, le $10 est vertical, oui, alors que les autres sont horizontaux.
Exactement. Exactement, super. Ce billet, c'est le premier imprimé à la verticale. D'accord. Au Canada. Donc, c'est super spécial. C'est aussi une sécurité augmentée et ça fait une lisibilité plus meilleure.
En fait, je me posais la question il y a quelques jours, donc oui, merci pour l'explication.
Et pour parler un peu de l'histoire de l'argent canadien en général, que sais-tu sur l'histoire de la monnaie canadienne? Genre, qui étaient les banques qui ont émis les billets et pourquoi a changé la monnaie tellement?
Eh bien, je n'en ai aucune idée, mais c'est pour ça que je t'ai invitée. Donc, j'espère que tu as une petite explication pour moi.
Oui, bien sûr. So, à l'époque, l'argent n'était pas le même partout au Canada. On trouvait au pays de différents billets imprimés par des dizaines de banques et par le gouvernement aussi. Et c'est parce que les provinces francophones, ils ont préféré de payer en dollars. Mm-hmm. Mais les provinces plutôt anglophones, ils étaient encore très attachés à la livre sterling, donc au British pound. Et finalement, tous les Canadiens et Canadiennes, ils se sont mis d'accord sur une monnaie et le dollar canadien a été créé.
Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire du dollar et notamment le rôle des banques et aussi celle de la Banque de Montréal, tant qu'à faire?
Exactement. Donc, la Banque de Montréal, c'est la plus ancienne banque canadienne et elle fait partie du club des Big Five. Donc, elle fait partie des 5 plus grandes banques au Canada. Il y a aussi Banque TD, Banque Scotia, etc. Au début du 19e siècle, les premiers billets de banque, ils ont été émis par la Banque de Montréal, ici à Montréal, et ils ont devenu le principal moyen de paiement du pays, ou au moins dans la région. Ici. Mm-hmm. Et environ 50 ans plus tard, le gouvernement canadien il a approuvé le Uniform Currency Act pour remplacer les monnaies des différentes provinces par un seul dollar canadien pour toutes parce que c'était vraiment un peu la galère. Donc, ça veut dire que la Banque de Montréal, elle a servi comme une banque centrale au Canada jusqu'à la fondation de la Banque du Canada en 1935. Donc, ça fait juste depuis un peu moins que 5 ans, c'est assez récent. Et cette nouvelle Banque du Canada, qui existe toujours aujourd'hui, elle a commencé à s'occuper de la production de tous les billets canadiens que nous, on utilise aujourd'hui. Mmh. Et à partir de là, l'argent, il a été le même partout au pays. Et aujourd'hui, voilà, on paye avec nos très, très beaux billets de Banque du Canada. Super sécurité. Et un petit fun fact sur la Banque de Montréal. Elle a aussi pris part au financement de chemins de fer transcontinental canadien dans les années 1880. Donc, c'est aussi grâce à la Banque de Montréal qu'il y a des trains au Canada.
Ah oui.
Et vu que la Banque de Montréal ne produit plus de billets de banque aujourd'hui, sais-tu où sont produits les billets de banque canadiens aujourd'hui?
Alors, j'ai un établissement en tête, c'est la Monnaie Royale canadienne. Est-ce que tu en sais plus sur le sujet? Parce que ce n'est pas mon cas.
Oui, presque. La Banque du Canada, elle a son siège dans quelle ville?
Ottawa.
Yes, c'est correct, oui. La Banque du Canada, elle se trouve à Ottawa et c'est le seul endroit où sont fabriqués les billets de banque.
Okay.
Donc là, tu m'as déjà parlé de la Monnaie Royale canadienne. Ce n'est pas la même société et c'est elle qui produit les pièces de monnaie. Donc, Banque du Canada, elle fait les billets et la Monnaie Royale canadienne, comme tu l'as déjà dit, elle fabrique les pièces. Ce sont deux sociétés différemment.
D'accord.
Et aujourd'hui, elle fabrique les pièces de circulation de 500, 10, 25, 50 cents, 1 dollar et 2 dollars. Okay. Et c'est le seul organisme canadien à avoir le pouvoir de le faire. Et aujourd'hui, les pièces de 1 cent, ils ne sont plus produits. Peut-être tu l'as déjà constaté qu'ils n'existaient vraiment plus parce qu'ils n'étaient pas utilisés, ils dérangent toujours, ça fait gonfler la portefeuille et ils coûtaient aussi plus cher que leur valeur.
Ça, c'est drôle à savoir.
Okay. Oui, exactement. Donc, on peut dire que la fabrication de chaque pièce de 1 centime coûtait 1,6 cent à fabriquer.
Okay.
Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Ce n'est pas très logique. Donc, depuis un peu plus de 10 ans, la production des pièces de 1 cent, il a donc été arrêté. Prochaine question. Sais-tu où sont-ils produits? Les pièces.
Les pièces de monnaie?
Exact.
Eh bien, ce n'est pas la monnaie royale canadienne?
Exactement, mais c'est
à Ottawa?
Non.
À Toronto?
Non.
À Montréal?
C'est dans une ville à Manitoba.
Ah, d'accord. Bon, bah, je pouvais pas dire.
Ils sont produits à Winnipeg.
D'accord.
Depuis un peu plus que 40-50 ans. Dans les deux langues nationales officielles. Et voilà, ils sont émises par la monnaie royale canadienne, comme tu l'as déjà dit. Mm-hmm. Et le chef d'État canadien se trouve à l'avers des pièces. Donc, qui se trouve à l'avers des pièces aujourd'hui, actuellement ?
Une reine d'Angleterre.
Si tu veux, tu peux regarder un peu ce que j'ai apporté.
On a la reine Elisabeth. Mm-hmm. On a un petit... Ah non, toujours la reine Elisabeth, c'est ça ?
Maintenant, c'est le roi Charles.
D'accord.
Et les premières pièces avec son visage dessus sont sorties fin 2023. Donc c'est normal que peut-être tu ne l'as pas encore vu. C'est assez récent et ça prend beaucoup de temps de créer les nouveaux motifs. Mmh. Et le processus de la création d'un nouveau motif avec de Sa Majesté le Roi Charles, c'est super complexe et ça prend nombreuses étapes. Ah oui. Donc, première étape, c'est le couronnement du roi.
Oui, déjà, c'est important.
Super. Après, c'est le gouvernement du Canada qui va annoncer qu'on va changer l'avers de la pièce. Okay. Après, la monnaie royale canadienne a envoyé une invitation par courriel à ses graveurs et aussi à d'autres artistes. C'était un peu plus que 350 graveurs ou artistes. Et eux, après, ils peuvent renvoyer des motifs et des propositions pour l'avers de la pièce. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. La monnaie royale canadienne, elle doit choisir un motif gagnant qui, après, il est présenté au gouvernement et aussi au palais de Buckingham pour l'approbation.
OK. Et là, elles sont déjà en circulation?
Oui, depuis quelques mois. Donc voilà, la frappe des nouvelles pièces a pu démarrer. Et depuis maintenant, on est mars, depuis 3-4 mois, ils sont en circulation. Donc c'est super récent. Et pour l'apaisement, les pièces avec la reine Elisabeth, ils restent toujours valides.
Très bien. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces explications. Je porterai plus d'attention aux billets de banque et aux monnaies que j'ai. Merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour de
C'était
nouvelles
avec
histoires.
Avec plaisir, Cherline.
Eh bien, à bientôt Amélie. Plaisir Merci. Partagé. On continue sur CIBL avec l'entrevue du chanteur Tété.
Faut toujours l'argent.
Vous écoutiez L'argent mène le monde de Capitaine No et je reçois ce matin Tété, auteur, compositeur, interprète français en concert à Montréal ce vendredi à l'occasion de la sortie d'un nouvel album. Bonjour Tété, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Pour ceux qui n'ont pas encore la chance de te connaître, comment tu pourrais nous décrire ta musique ?
Ah, je dirais que c'est de la chanson acoustique avec des accents... un peu de soul et de musique américaine, et sur un format pop parce que c'est très mélodique.
Très bien, c'est un beau mélange. Tu mènes actuellement une tournée de 24 dates dans toute la France, mais le temps d'un concert, tu sors du pays pour venir à Montréal. Pourquoi venir jouer ici ?
Parce que, alors, ça, c'est une très bonne question. Bah, d'une, parce qu'on m'y a invité. Deux, parce que c'est un pays qui est cher à mon cœur. Il se trouve que cette tournée, elle est un peu particulière parce que on fête les 20 ans de l'anniversaire de l'album qui m'a ouvert les portes pour tous les autres, quelque part, à la faveur de l'automne. Et cet album, en fait, a été en partie écrit à Montréal il y a 20 ans. Et du coup, c'était une manière de boucler la boucle.
En effet, on va revenir sur cette boucle bouclée parce qu'il y a beaucoup de signes comme ça que j'ai relevé avec Montréal. Mais la tournée s'appelle Antichambre et donc, comme tu l'as dit, elle vise à fêter les 20 ans de la sortie de cet album mythique À la faveur de l'automne qui est sorti en 2003. Qu'est-ce que représente cet album pour toi ?
Je dirais que cet album, avant tout, c'est une tranche de vie. La petite histoire a fait que je suis venu en 2001 tourner un clip à Montréal. Suite aux francophonies. Et sur le tournage, j'ai rencontré une maquilleuse québécoise avec qui j'ai eu une histoire très brève, mais qui m'a marqué. Et donc, À la faveur de l'automne, la chanson raconte l'histoire de cette fin d'amour, l'histoire de cette fin d'histoire d'amour, pardon, sur fond d'automne québécois. Donc, je pense qu'il y a la moitié des chansons de l'album qui parlent de ça, et puis une bonne partie des chansons ont été écrites à Montréal, d'où l'attachement avec avec cette ville.
Cette chanson, À la faveur de l'automne, elle a une grande importance pour ta carrière. C'est un peu elle qui t'a fait connaître. C'est celle dont les gens se sont emparés finalement.
Exactement. C'est la chanson qui m'a échappé, on va dire. J'aime bien cette image de dire que la plus belle chose qui peut arriver à un chanteur, à un auteur-compositeur, c'est que le public s'empare de sa chanson et il la lui vole d'une certaine manière. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que cette chanson est passée à la radio, donc elle a contribué à me faire connaître. Mais surtout, assez vite, elle a été reprise dans des radios crochets. par des jeunes gens qui connaissaient pas forcément mon travail. Et donc, en fait, sans le savoir, ils ont contribué à présenter mon travail à des gens qui ne me connaîtraient pas sans ça. Mmh. Et donc, bah, ça fait 20 ans que, il y a des gens qui viennent me voir à la fin des concerts en me disant je te connaissais absolument pas, j'ai découvert la chanson chantée par quelqu'un d'autre, et puis en remontant un peu le courant, je suis tombé sur toi et ça m'a donné envie de découvrir les autres chansons. Donc je dirais que c'est avant tout une ambassadrice, une porte ouverte sur toutes les autres cette chanson.
Et à ce propos-là, justement, de ce succès de cette chanson, tu dis que t'aimes cette idée que c'est pas toi qui choisis. Pourquoi t'aimes le fait que ce soit le public qui décide si une chanson marche ou pas?
Parce que, ben, alors c'est très personnel, mais je crois que je me suis toujours fait sur des accidents. Mmh. Et je vais sûrement dire une bêtise, mais il me semble avoir entendu dire que John Lennon disait que la vie, c'est une série d'accidents et qu'après, ben, le jeu, c'est qu'est-ce que tu en fais. Mmh. Et puis, il y a aussi un truc de, comment dire, de s'en remettre aux étoiles, en fait. Mmh. Souvent, on croit que c'est nous qui faisons les choses, alors que le hasard joue beaucoup, et puis c'est le cœur des gens. Mmh. C'est le cœur des gens qui choisit une chanson ou pas. Mmh. Et puis, ben, pour terminer, je trouve que il y a un truc avec la sincérité aussi. C'est que quand on, enfin, moi déjà, j'ai jamais su faire ça. Mais quand on fait un truc et que tout est calculé en disant je vais faire ça parce qu'il va m'arriver ci et ça et ça et ça. Bah, d'une, je sais pas le faire, et puis de deux, je trouve ça un petit peu, comment dire, c'est pas trop ma façon de voir les choses. Alors, quand on essaie de faire les choses sincèrement, juste pour le plaisir, et puis qu'en plus, bah, ça déclenche d'autres choses, sans qu'on les, comment dire, bah, sans qu'on les calcule, je trouve que c'est le plus beau cadeau que peut vous faire la vie. Bon, c'est un peu comme une rencontre amoureuse, en fait. D'aller dans une soirée où on n'a pas envie d'aller, on ne fait pas particulièrement d'efforts vestimentaires parce qu'on dit bah c'est bon, je vais juste voir des copains puis je vais rentrer à Navarre. Mmh. Et puis bah des fois c'est pendant ces soirées-là qu'on rencontre la femme avec qui on passe le reste de sa vie.
En tout cas, le public, j'ai l'impression, est tombé amoureux de cette chanson. Cette chanson, elle parle d'automne, un thème qui revient dans d'autres de tes titres. Quel est ton rapport à cette saison?
Ben, l'automne, je dirais que ça a toujours été ma saison préférée. Mmh. Et moi, j'ai grandi dans le nord-est de la France, vers Reims. Et c'est une région qui est très boisée. Et du coup, il y a un très bel automne, alors qui est pas aussi haut en couleur que l'automne québécois, mais il y a un très bel automne. Et c'est vrai que je me souviens quand j'avais 15-16 ans, je jouais déjà un petit peu de guitare, mais ma frustration, c'était de pas avoir les mots pour dire ce que me faisait cette saison. Et en fait, ces mots-là, je les ai trouvés 10 ans plus tard à Montréal. Mmh.
Cette chanson, elle est donc teintée de nostalgie, parce que tu parles d'automne, mais aussi de cette peine de cœur avec cette Québécoise. En général, est-ce qu'il y a des sentiments qui t'inspirent plus que d'autres dans tes créations?
Bah, alors oui, mais disons qu'en 20 ans d'écriture de chansons, ça a évolué. C'est-à-dire que ce qui m'inspirait beaucoup quand j'avais la vingtaine, c'était évidemment les histoires d'amour plutôt déçues. Mmh. C'était l'itinérance, l'identité, parce que moi je suis né en Afrique en fait, mais je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Mmh. Et j'ai le sentiment d'avoir recommencé à zéro plusieurs fois dans ma vie. En arrivant en France à Bordeaux déjà, parce que c'est là que ma mère est née. Ensuite en allant à Saint-Dizier, où j'ai grandi, où j'ai appris à jouer de la guitare. Et ensuite en arrivant à Paris. Mmh. Mais ensuite, ben, quand on fait sa vie comme on dit, voilà, moi je suis avec ma femme depuis 15 ans... Quand on a des enfants, on peut pas continuer passer 40 ans à écrire des histoires d'amour, comment dire, sans lendemain. Mm-hmm. Voilà, et puis on construit autre chose avec les enfants. Et ce que je retiens de ces 20 ans-là, c'est que ça a été un laboratoire où j'ai pu explorer plein de choses. Il y a des albums qui sont plus sociétaux, d'autres qui sont plus sur le fait de retrouver son âme d'enfant, et d'autres qui sont plus un commentaire de ce que peut être le monde. Mmh. Et je crois que cette tournée, la continuité de ça, parce qu'on l'a appelée l'antichambre, parce que le fait de fêter les 20 ans en faveur de l'automne, c'était un peu un cheval de Troie pour présenter mes nouvelles chansons. Ouais. Parce qu'en fait, la dernière tournée que j'avais faite avant celle-là, c'était juste avant le confinement. Mmh. Et en fait, tout de suite, dès le confinement, j'ai recommencé à écrire des chansons, donc il y a 4 ans, donc j'ai une trentaine de nouvelles chansons. Et coup sur coup, il y a eu 2 projets phonographiques que j'ai eu la chance de faire où il n'y a pas eu de tournée. Mmh. Bon, moi, j'ai vécu avec ces chansons-là pendant 4 ans et c'est vrai que ça m'était jamais arrivé depuis que je fais ce métier de non seulement de pas tourner pendant aussi longtemps, mais surtout de ne pas tester mes chansons en concert avant de les enregistrer. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la magie de cette antichambre tour qui a été pensée pour être certes la commémoration de la faveur de l'automne, mais surtout l'antichambre de l'album d'après.
Ouais. Et puis donc il y a la tournée, il y a aussi la réédition de l'album à la faveur des rencontres, ça s'appelle, dans laquelle tu proposes des morceaux revisités de cet album de 2003 avec des amis artistes comme Benabar ou Jérémy Frérot. C'est pas trop délicat de toucher à ces chansons patrimoine, comme tu les appelles, 20 ans plus tard?
Ben, en fait, oui, c'est vrai que j'ai vu ce mot-là dans les présentations. J'irais plus chanson signature dans le sens où elles ont été une porte d'entrée pour les gens qui m'ont fait l'amitié de me suivre après. Et de venir au concert, même sur des concerts où il n'y avait pas forcément des titres qui étaient aussi identifiés. Mais non, ça a été une manière pour moi de les redécouvrir, ces chansons, parce que je pense que quand on écrit une chanson soi, vu que moi j'écris la musique et les paroles, ben il y a forcément une part d'égocentrisme, on se regarde faire, on s'écoute chanter, on a des tics de coquetterie, des tics de voix, voilà. Et c'est vrai que moi, ce qui était important pour moi sur cet album de duo, c'était vraiment chaque invité de leur dire, ben cette chanson, je te la donne, et c'est surtout pas de refaire mes inflexions de voix.
Ah oui.
vous voyez, c'est cette chanson, ben chante-la comme si toi tu l'avais écrit. Et du coup, bizarrement, au bout de 20 ans, c'est en entendant ces chansons chantées par quelqu'un d'autre, avec d'autres appuis, où du coup je me suis dit, mais en fait c'est dingue, cette chanson, je croyais qu'elle parlait de telle chose, mais en fait elle parle de telle autre chose et je l'avais jamais compris.
Il n'est jamais trop tard, donc. Il n'est pas exactement. Jamais trop tard pour autant rechanter ces chansons. Il y a un autre titre dont je voulais te parler, c'est Montréal, forcément. Toi qui aimes l'automne, on comprend mieux ton attachement à cette ville. Tu chantes à ce propos « L'automne à Montréal ou rien, entre l'orange et le camin ». Dans quel contexte tu as écrit et composé ce titre?
Eh ben, en fait, la petite histoire d'amour très brève dont je vous ai parlé n'a pas duré très longtemps, mais l'année qui a suivi, moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Montréal pour essayer de... Comment est-ce qu'on dit ça? De réparer... Il y a une expression pour ça, je ne sais plus comment on dit. De réparer les pots cassés, voilà.
Ouais.
De réparer les pots cassés, pardon. Et puis aussi, ben, c'était une ville où... Moi, je me suis toujours senti bien. C'est une ville que j'ai toujours trouvée inspirante. Et en fait... toutes ces chansons-là, dont Montréal, elles ont été écrites soit à Montréal, soit quand je rentrais à Paris quelques mois. Et en fait, il y a un truc que... Alors, c'est bizarre de dire ça, surtout qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de l'empreinte carbone. Donc, c'est pas un truc que je referais maintenant, mais c'est vrai que quand on arrive quelque part et qu'on est sous décalage horaire, eh ben, pendant quelques jours, on est dans une réalité parallèle. Parce qu'en fait, ce qui nous environne, on le vit de manière un peu tronquée. Et c'est ça que j'aime dans le dépaysement, parce que finalement, quand on est un peu tout le temps chez soi dans la ville dans laquelle on habite, ben, dans le métro, en allant au travail, on regarde ses pieds. Dans les grandes villes, les gens évitent de se regarder dans les yeux. Enfin, Montréal, c'est moins comme ça dans mon souvenir, mais en tout cas, à Paris, c'est très comme ça. Et alors que quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas, on a les yeux levés toute la journée. On regarde les bâtiments, on regarde les gens. Pardon ?
Et c'est bon pour la création artistique ?
Bah, complètement. Alors que quand on est dans son espèce de routine et qu'on regarde ses pieds, ben, on n'est pas à l'écoute, en fait.
Dans cette chanson, tu dis également « J'ai rendez-vous à 7h tapante au coin de Rachel et Saint-Laurent ». Tu vas me dire si c'est un pur hasard ou si tout était calculé, mais la salle de concert dans laquelle tu te produis vendredi, le Club Balatou, se situe au coin de Rachel et Saint-Laurent.
Ah, c'est drôle. ce qui s'est passé, la chance que j'ai eue quand je suis arrivé à Montréal la première fois, c'était en 2000 ans. Donc effectivement, c'était à l'occasion des Franco. Et la personne qui m'y a emmené avait un ami d'enfance qui était installé là-bas. Et en fait, l'appartement de cet ami-là était sur le plateau, juste en face d'un bar qui s'appelait le Barouf. Je sais pas si c'est encore ouvert.
Bien sûr.
Et du coup, c'était à, je sais pas, c'était à 400 mètres de, bah, du coin de Rachel et Saint-Laurent. Mm-hmm. Ce qui fait qu'en fait, moi, l'expérience de Montréal que j'ai eu toutes ces années-là, c'était toujours sur le plateau, mm-hmm. avec mes petites habitudes, aller manger au patati patata. Pareil, ça existe encore.
Ou... ouais, bien sûr, tu pourras y aller.
Ben voilà quoi, j'avais du coup, c'était un peu mes lieux, je me sentais bien, j'allais écrire au Relais 4 des après-midi entières, ouais. Et du coup c'est vrai que c'est toute l'âme de ce quartier en fait moi qui m'a inspiré ces chansons. Et en fait quand moi j'ai découvert Montréal, j'étais à Paris depuis 2 ou 3 ans, mm-hmm. et encore une fois moi je viens d'une grande ville et c'est vrai qu'à Paris il y a un truc qu'on se sent un peu écrasé parce qu'il y a 10 millions de personnes qui se côtoient mais qui se parlent pas, puis que les bâtiments sont très grands. Et que moi, ce que j'adorais sur le plateau, c'est que il y a plein d'immeubles qui étaient pas plus hauts que 2 étages. Mmh. Et du coup, dans les appartements, il y a beaucoup de lumière. Mmh. Alors que la lumière, elle est inaccessible dans une ville plus grande. Et j'ai eu le sentiment de retrouver quelque chose qui était plus proche de moi. Moi, venant justement pas d'une grande ville. Voilà, je crois que c'est pour ça, je pense que je m'y suis senti aussi bien. Puis je parle beaucoup de la ville, mais en fait, ce qui fait une ville, c'est les habitants. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un rapport qui est, je sais pas comment dire ça. Il me semblait qu'il y a un rapport qui était plus simple, immédiat, direct entre personnes à Montréal. Après, je dis avec des pincettes parce que je pense que c'est un peu le cliché du Français qui arrive à Montréal, quoi. Je pense qu'ils projettent plein de fantasmes et qu'évidemment, on peut pas dire qu'on connaît un pays parce qu'on y allait quelques fois quelques semaines. Je pense qu'il faut s'y installer pour de vrai, faut traîner avec des gens qui sont vraiment de là, faut travailler là, en tout cas moi c'est ce que ça m'a inspiré à l'époque. Mmh. Quoi.
Bah, tu vas vérifier si tes souvenirs sont bons ce vendredi. Pour revenir à cette tournée Antichambre, déjà son nom veut tout dire, mais tu as voulu vraiment créer un spectacle intimiste dans des petites salles et puis aussi un concert acoustique en guitare-voix simplement. Pourquoi ces choix-là?
Parce que je voulais vraiment revenir à l'essence de ces métiers-là. Mmh. Ça va faire un peu romantique de dire ça, mais souvent on commence à jouer de la guitare quand on est adolescent. Mm-hmm. Et on joue de la guitare pour penser ses plaies. Moi j'ai commencé à jouer de la guitare parce que je m'ennuyais dans la ville où j'étais. Mm-hmm. Et c'était pour combler l'ennui. Et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que pas une seule seconde, quand j'ai commencé à faire mes premières chansons, j'imaginais que ça pourrait devenir mon métier parce que je connaissais personne qui l'avait jamais fait. Et pour moi, les gens qui faisaient ces métiers-là, c'était des Parisiens, c'était des gens, je sais pas moi, qui étaient à New York, à Londres, à Los Angeles, mais pas nous. Mm-hmm. Parce que, tout simplement, parce que personne nous avait dit qu'on pourrait le faire. Et puis après, quand on a la chance de pouvoir faire ça, on commence à se poser des questions différentes. Et c'est là où il faut faire attention, je crois. Et revenir avec sa guitare et sa voix, ça oblige à revenir sur les fondamentaux. Mm-hmm. Puis même quand on a des nouvelles chansons, c'est est-ce que je suis content de cette chanson-là? Est-ce que je me sens à l'aise de la jouer Est-ce que je me sens à l'aise de la jouer guitare-voix? Est-ce que j'ai envie de la défendre? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce que je sais pas? Enfin voilà, c'est et du coup ça, on peut le. Enfin moi en tout cas, je peux le toucher du doigt que sur une tournée guitare-voix. Mm-hmm. Et pour finir, c'est vrai que je voulais faire les choses. Différemment, et alors là, on peut pas le faire à Montréal parce qu'on peut pas, l'équipe vient pas avec nous parce que c'est les billets d'avion et tout ça, mais sur la partie française de la tournée, en fait, on demande à chaque salle de reconstituer un salon pour nous. Mmh. Donc les salles ont carte blanche. Et ce salon nous permet sur scène d'inviter des gens sur scène. Et c'est le public qui choisit les chansons que je joue, en fait, qui choisit les anciennes chansons que je joue. Et j'ai aussi un cahier sur scène. Où il y a les titres de toutes les nouvelles chansons. Mmh. Et donc, les gens que j'invite sur scène, ça sort sur le canapé dans le salon, donc, je leur donne ce cahier, et à la lecture des titres, c'est eux qui me disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est un peu inhabituel et une mise en danger, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude de préparer les choses soigneusement, parce que j'imagine que ça m'a rassuré. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le concert n'est jamais le même, quoi. Mmh.
Bon, bah, c'est un spectacle intimiste au plus haut point, à ce que je vois. Merci beaucoup, Tété, pour cette belle discussion. Ton concert à Montréal, c'est vendredi à 21h au Club Balatou sur Saint-Laurent, donc au coin Rachel. Merci beaucoup, Tété, et puis bon concert. À noter que les billets sont disponibles sur le site festivalnuitdafrique.com. Bon concert, et puis nous, on se quitte avec ton Montréal, ton interprétation de Montréal. Bye bye, à bientôt.
Merci pour votre gentillesse et votre temps.
On continue sur CIBL avec l'interprétation de Montréal de Tété, et puis on enchaîne avec la conclusion.
Sidonie, Odine et Myriam tant que l'azur à l'or et du couchant ça lui plaît. Oh, ça l'envoûte. Ça fait passer le goût du chien dans comme à chaque peine sa fin de jour. Oh, l'arrière-saison, le temps d'une vespérale. Oh, les flots du Mont-Royal. Tel le sympa chante ton amour. Au coin de Rachel et Saint-Laurent, j'y serai sans aucun doute. C'est le genre de belle dont on s'éprend, de celles qui disparaissent au petit jour.
Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Michael Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit le propriétaire du restaurant à Poutine, La Banquise, mais également nos chroniqueuses avec Amanda Fakihi pour la rhétorique et puis Emma Ducasso, PO pour les figures féministes de Montréal. Juste après, c'est Francophile, l'émission de Philippe Papineau. Bonjour Philippe.
Salut, tu me donnes faim déjà.
Eh bien oui, mais il est 10h du matin, c'est pas l'heure de la Poutine.
Il n'y a pas d'heure pour la Poutine. Des fois, il y en a qui finissent leur soirée à cette heure-là.
En effet. Quel est le programme pour ton émission?
Aujourd'hui, je me suis amusé à demander sur la page Facebook Francophile de l'émission des chansons d'amour un peu différentes, avec un angle d'attaque un peu alternatif, un peu marginal. Et puis, je vais égrener ça au fil de l'émission, au fil de la sélection musicale que je vous ai faite. Entre autres, mon oncle Serge, qui, lui, nous fait une chanson sur que c'est bien de médire avec quelqu'un qu'on aime. parce qu'il est mon langue serge de la langue bien trempée dans le venin. Alors, c'est bien de médire avec quelqu'un qu'on aime bien à côté de soi. C'est un peu la langue d'attaque, ce genre d'agent d'attaque. Alors, si vous avez des suggestions, sur la page Facebook de Francophile.
Très bien. Eh bien, Francophile, c'est tout de suite à 10h. Bonne chance, Philippe.
Merci.
Et puis, c'était Charline Caro sur TCIBL. Moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
Monsieur Bulle et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
Excusez-la est une émission dédiée à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Mon nom est Marc Bauduc et chaque semaine, je vous convie à un rendez-vous dédié à la musique traditionnelle en toutes ses formes, que ce soit les nouveautés, les prestations en direct ou divers thèmes explorés au cours de l'émission. Les dimanches de 18h à 19h et en reprise les mercredis de 13h à 14h. Soyez au rendez-vous.
CIBL 105 Montréal.